C'est le 4 octobre 1996 que Gunpei Yokoi nous a quittés. Et c'est pour ça que pour ce 153e podcast, eh bien, la rédaction a invité Florent Gorge. Ça va, Florent ?
Très bien, salut tout le monde.
Eh bien oui, pour Hello. Parler de l'héritage de Gunpei Yokoi, un héritage d'un véritable génie du jeu vidéo, hein, absolument cosmique. Un 153e podcast vraiment placé donc sous le signe de cette saga, de cet homme qui a quand même donné naissance à tellement de choses chez Nintendo.
Et on va le
voir. Ah ouais, un véritable inventeur. Et on va le voir avec toi, Florent,
oui.
Qui a laissé même des traces plus tard, puisque quelque part, on peut le dire en ouverture de ce podcast, la Wii, quelque part, c'est presque un peu du Gunpei Yokoi.
Ouais, ouais, on peut le dire très clairement. Il n'y a pas de souci là-dessus.
On reviendra là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Florent, des éditions Pixel Love, bien évidemment. Alors déjà, merci pour le blog VIP Pixel Love, qui est juste mortel. Moi, j'y vais à chaque fois et tout. Il y a toujours des petites pépites et on voit comment vous trimez, hein, quand même, avec toutes vos lettres, vos enveloppes, etc. Mais c'est pour la bonne cause.
Ce n'est pas tous les jours évident, mais bon, on prend quand même beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'on continue. Et puis bon, le public répond, les lecteurs sont là et nous encouragent. Donc, malgré les difficultés et l'adversité, on continue. Et puis, ça nous plaît et c'est très bien.
Eh ben merci les gars, et surtout merci aussi de nous offrir ces véritables pépites, parce que vraiment là, ça fait partie d'une série de biographies. Ça avait commencé
avec Takarashi Meijin, donc un héros de l'époque Famicom, et puis là on arrive bientôt avec un troisième volume sur Michel Ancel, qui devrait arriver d'ici peu de temps.
Très bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Gunpei Yokoi, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas très bien le resituer, et pourtant, tu vas nous parler un petit peu de... On va sur un petit sort de sommaire, un accéléré de sa carrière.
Oui.
Et vous allez vous rendre compte que c'est pas n'importe qui.
Bah écoute, donc Gunpei Yokoi est un étudiant un petit peu raté à l'époque quand il rentre chez Nintendo. Il n'y a que Nintendo qui lui ouvre ses portes. Et pourtant, c'est un inventeur qui a beaucoup d'idées, pas beaucoup les moyens de les mettre en application, mais Nintendo va le faire. Et au cours de sa carrière de plus de 30 ans chez Nintendo, il va mettre au point un certain nombre de jouets qui sont malheureusement méconnus chez nous, puisque c'est des jouets qui n'ont été vendus qu'au Japon, mais qui vont bouleverser, on va dire, plusieurs fois l'industrie du jouet au Japon. Et en ce qui nous concerne, nous, on connaîtra un petit peu plus tard les Game & Watch, qui sont les petits jeux électroniques qui faisaient bip bip à l'époque. Donc ça, c'est lui qui les a inventés. Il va mettre au point aussi la Game Boy et la croix multidirectionnelle aussi, celle qui a équipé nombre de joypads avec plus ou moins de réussite.
À ce sujet-là, on apprend des choses complètement dingues avec Bill Gates qui disait que pour lui c'était l'avenir, etc.
Oui, il y a plein de petites anecdotes vraiment passionnantes sur l'envers du décor. Il y a pas mal de petites révélations rigolotes, nous ce qu'on appelle des trivia chez Pixel Love. Mais donc voilà, il a fait un certain nombre de jeux, de jouets. Il y a aussi Virtual Boy, mémorable à de nombreux égards.
On reviendra dessus vers la fin du podcast, puisqu'on va faire chronologiquement un petit peu sa jeunesse, sa grandeur et puis sa mort, malheureusement.
Puisqu'il était donc directeur en fait de la Research Development numéro 1, la R&D 1, pendant 30 ans. Et donc il a aussi supervisé le développement d'un certain nombre de jeux plutôt connus, comme Metroid ou ce genre de jeu, voilà, que vous devez connaître si vous écoutez Gameblog.
Oui, voilà. Ok, on revient sur cette biographie parce qu'elle a elle aussi une histoire un petit peu particulière avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder la jeunesse de Gunpei Yokoi, qui est très, très riche en anecdotes. Hein. C'était un serial lover, Gunpei, il faut le dire. Cette biographie, en fait, tu l'as fait en collaboration avec une biographie japonaise. Et ça a été plein d'histoires déjà.
Bah en fait, c'est cette bio, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est c'est une traduction pour 70% du contenu. Une traduction d'un bouquin japonais qui est paru en 96, pardon, que je dise pas de bêtises.
Quelques mois
avant la mort du bouquin de Gunpei Yokoi, puisque malheureusement, il nous a quittés. Là, il y a maintenant, donc, tu l'as dit tout à l'heure, 14 ans.
Ouais.
Et cette bio, donc, quand elle est sortie, elle n'a pas fait beaucoup de bruit. Au contraire, même, elle est passée plutôt inaperçue parce que c'était un gars qui sortait de l'ombre. Comme vous savez, c'est quand même très corporate au Japon. C'est pas vraiment des jeux d'auteur ou des machines d'auteur. C'est Nintendo qui a fait les jeux et les consoles, point barre. Donc, il n'y a qu'avec Miyamoto ou Anuma que récemment, on commence à voir des auteurs percer un peu plus. Mais à cette époque, voilà, personne ne savait qui était l'inventeur de telle ou telle chose. Et donc... difficile de faire une biographie avec quelqu'un de méconnu. Malheureusement pour lui, quand il est mort, les médias ont commencé à s'intéresser à lui, puisque la presse spécialisée comme Famitsu, tous les magazines spécialisés, ont commencé à révéler le nom en disant « voilà, monsieur Yokoi qui a inventé tel ou tel truc ». Et là, forcément, ça a eu beaucoup plus d'impact, de résonance.
Ouais.
Et les grands médias ont commencé à en parler, ce qui fait que le bouquin, qui était maintenant totalement introuvable, puisque les ventes étant pas forcément excellentes, les libraires les avaient renvoyés, etc. Donc c'était parti au pilon certainement. Il est devenu ultra collector. Et on a vu sur certains sites de vente des sommes astronomiques, genre 90 000 yens, ça fait 800 euros.
Même vous, à Pix & Love, vous avez dû l'acheter aux enchères.
Alors c'était bien avant Pix & Love, hein, parce que ce bouquin, je l'ai acheté moi en 2002, avant la vraie folie Gunpei Yokoi, mais je l'avais déjà payé 20 000 yens. Ça faisait 150 euros à l'époque quand même, donc pour un bouquin qui en coûtait 1400 yens, c'est-à-dire même à peine 10 euros, oui, c'était la différence était déjà
bonne cote.
Voilà, mais le bouquin était tellement excellent que voilà, j'ai pas du tout regretté mon achat. J'ai tout de suite essayé de contacter l'auteur, puisque moi je faisais des recherches sur Nintendo déjà à cette époque et je voulais en savoir un peu plus. Impossible de le retrouver. Et en 2009, avec l'aide de mon ami Isao Yamazaki qui m'a aidé dans la rédaction et la documentation de l'histoire de Nintendo, on l'a retrouvé, l'auteur, qui s'est tout de suite montré très intéressé. Donc on était extrêmement heureux de pouvoir publier en français une Bible collector qui valait une fortune au Japon. On en était très fiers et on a eu la chance d'apporter beaucoup d'améliorations à ce bouquin. Ouais.
Écoute, on va commencer, si tu le veux bien, avec une image dont on va révéler tout à l'heure peut-être la signification, mais justement ce sera un petit peu le fil rouge. Si Poufy, alors pour ceux qui ont la vidéo, mais enfin on la mettra aussi dans l'espace, juste à côté, en bas de la tombe, à côté du Pix & Love, il y a un logo bien connu des joueurs. La Triforce, tu nous expliqueras un petit peu, c'est la tombe de Gunpei Yokoi, tu nous expliqueras tout à l'heure.
Oui, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Après, c'est vrai que dans cette bio Pix & Love, on a la chance, vraiment une énorme chance d'avoir pu utiliser beaucoup de photos. Alors que la bio à l'origine, elle est totalement noir et blanc, il y a juste un petit cahier d'une dizaine de pages avec des photos des jouets, des jeux. Nous, on a eu l'autorisation, avec l'aide de la famille et de beaucoup de personnes, de pouvoir nous faire plaisir. Et on a révélé vraiment beaucoup de choses. Des documents manuscrits de Gunpei Yokoi, notamment ces petits dessins, ces petits gags en 4 cases qui sont absolument délicieux. Ouais. Et puis voilà, des trucs qui n'existaient pas dans la version d'origine, donc on a vraiment un travail qui vaut le coup, c'est vraiment quelque chose de bien, et je pense qu'on a de la chance en France d'avoir pu publier cette version-là. Quoi.
Ah bah ça, je te confirme, moi je l'ai dévoré en un petit week-end, et c'est juste passionnant. Alors la jeunesse de Gunpei Yokoi, je l'ai vu...
La naissance.
Ouais, la naissance, moi je l'ai vu vraiment marqué par... tellement de choses, tellement d'envie de plaire surtout.
Ouais, lui-même se revendiquait en fait, il expliquait en fait qu'il y avait dans le monde deux types d'inventeurs, ceux qui voulaient créer pour se faire plaisir et ceux qui voulaient créer pour faire plaisir. Mmh. Et lui, il faisait carrément partie de ceux qui créaient et qui s'amusaient de la réaction des autres. Tout ce qu'il voulait, c'était pas forcément se faire plaisir lui, mais amuser les gens, les surprendre. Donc voilà, il fait partie de cette catégorie d'inventeurs qui sont extrêmement généreux et qui voulaient tout donner, quoi.
Et alors justement, avant de créer des jeux, des consoles, des machines et des jouets aussi, il a créé un autoradio pour sa propre voiture, bien avant que finalement ça existe.
Oui, c'était déjà un touche-à-tout, hein. Depuis tout petit, il faisait des maquettes de trains comme beaucoup de Japonais à cette époque, mais avec des dioramas qui étaient tellement beaux que même les médias s'en sont intéressés. Il existait des magazines à l'époque de maquettes et donc il a été interviewé, il avait 10-12 ans. C'était déjà un touche-à-tout, il fabriquait des petites voitures aussi parce qu'il habitait dans un quartier avec une pente. Oui. Et il faisait des petites voitures pour descendre la pente, dévaler la pente. Enfin, c'était un...
Et apparemment il n'a jamais réussi à la finir.
Il n'arrivait pas à faire les pneus en caoutchouc, ouais. Et bon, on peut le comprendre quand tu as 12-13 ans. Mais voilà, il raconte toutes ces histoires d'enfance où il fabrique des tas de choses. Et quand il est étudiant, effectivement, il met au point, bien avant Clarion, parce que Clarion c'est l'inventeur de l'autoradio, il met au point un système qui lui permet d'écouter les cassettes dans sa voiture. Et il a jamais eu l'idée de le faire breveter ou même de quoi que ce soit. Et 4 ans plus tard, quand effectivement Clarion sort son premier autoradio, lui et ses amis qui sont déjà tous équipés se disent nous c'est bête qu'on n'ait pas eu l'idée de le faire breveter avant, quoi, parce qu'on aurait pu être riche. Mmh. Voilà, ce genre d'anecdote, il y en a plein dans la première partie du bouquin. Oui.
Un vrai touche à tout. Puis alors, oui. Aussi à son époque collège, il aime bien draguer les filles. Et du coup, il leur invente plein de petits trucs. Lui, c'est sa technique.
C'était bon, je vais pas, j'y rentrerai pas dans tous les détails parce que on pourra pas.
Il faut enlever ça à l'intérieur.
Mais non, mais disons que c'est pas dans le bouquin pour des raisons que vous comprendrez. Mais voilà, il aimait les femmes. Il aimait beaucoup les femmes et il a eu beaucoup de conquêtes et il y a beaucoup. Il l'explique d'ailleurs dans un petit passage qui est très court. C'est dommage, mais j'aurais aimé qu'il détaille un petit peu plus. Mais quand on disait tout à l'heure qu'il développait des jeux ou des jouets pour impressionner, lui il pensait avant tout à séduire les filles. Voilà.
C'est grave.
Parce que vous savez.
Pourquoi tu crois qu'on écrit des tests de jeux vidéo, nous? C'est pour séduire les filles, bien sûr.
Enfin, quand vous connaissez un peu le Japon, c'est vrai que quand tu fais un truc rigolo, t'as toujours les filles qui sont là en train de taper des pieds, à applaudir, à faire Sugoi. Donc, ça, forcément, il adorait ça. Et voilà, il inventait des jouets, des jeux pour s'amuser avec les filles, ouais. Il y en a un paquet des jeux, j'en ai un. Enfin, il aimait les femmes, voilà, ça c'est une chose, mais il y a un jouet par exemple, je ne sais pas si tu as lu, si tu te souviens de ce passage, mais il y a ce qu'on appelle l'ultrascope, un espèce de périscope qui grimpe, on appuie sur un bouton et ouais, ça monte. Ouais. Et il a eu cette idée-là parce qu'en fait, il s'avère que dans les locaux de Nintendo à l'époque, les vestiaires hommes-femmes étaient juste séparés par les casiers.
Génial.
Et il voulait un truc pour espionner du haut. Donc il a inventé ce périscope et il s'est fait plaisir.
Pour mater.
Et il explique que la taille en fait, du périscope, elle a été calibrée juste pour arriver au-dessus des casiers, quoi. Donc voilà, et puis le love tester, bien sûr, on pourra en reparler. Bon, ça, c'est typiquement le genre d'invention qu'il aimait pour s'amuser avec les filles, quoi.
Je te vois tout sourire, Julo. Est-ce que toi, t'as des
non, j'aurais adoré jouer avec ça quand j'étais petit, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a le bras articulé là qui s'appelle
l'Ultra End. Ouais.
L'Ultra End aussi. C'est marrant parce que c'est des jouets un peu comment dire. Qui sortent de nulle part, quoi. C'est des trucs un peu
bricolo.
C'est très original en tout cas, quoi. C'est pas le genre de jeu avec lequel nous on jouait quand on était petit. Et c'est le genre de truc qui m'aurait fait vraiment vraiment kiffer quand j'étais un gamin, quoi. Effectivement, espionner, tu vois, prendre des trucs à distance, etc. Voilà, il avait un esprit d'enfant. En fait.
Il y avait ça dans Pixou Gadget, ouais, à un moment donné, ou dans Pixou, je sais plus, les Ultrascope, etc.
Voilà, mais ça c'est bien que tu fasses cette remarque, en fait, Tras, parce que je pense que Gunpei Yokoi aurait adoré travailler à Pixou Gadget.
Ah ouais,
non mais c'est,
ouais,
ça. Il y a sur quelques forums, en fait, après avoir lu le bouquin, on a eu évidemment pas mal de réactions, toutes très bonnes heureusement, donc merci à tous les lecteurs, mais on a eu des remarques comme quoi beaucoup de gens disaient mais il était pas un peu quand même surestimé quand on voyait ce qu'il a fait après quitter Nintendo. Il a fait une espèce de petit porte-clés pour ranger des pièces, ouais, ou des protèges dentiers, etc. Ils disaient mais voilà, il a pas fait grand chose après. Moi j'ai envie de leur je pense qu'ils ont peut-être pas bien lu le passage, mais Yokoi Gunpei, il était forcé à la fin. Quand on est dans une société comme Nintendo, quand à l'époque en 95, quand ils font la Nintendo 64, où il explique qu'il est obligé d'inventer des trucs qui vont se vendre et qui vont rapporter 100 milliards à l'année, il est plus libre de faire ce qu'il veut, alors que lui, ce qu'il aime, c'est un bricoleur du dimanche, c'est faire des gadgets, c'est faire du pif gadget, quoi.
Ouais, comme le concours Lépine où t'as tous les gens, voilà, qui font des trucs hallucinants qui servent pas forcément à grand chose, mais qui débouchent souvent sur des trucs hallucinants, quoi.
C'était un inventeur du dimanche qui se prenait pas au sérieux, qui était vraiment modeste et qui avait évidemment de bonnes idées avec une bonne équipe, une force de vente comme Nintendo qui était incroyable. Donc forcément, il a eu d'énormes succès. Mais c'est un gars qui aurait très bien pu rester dans l'ombre s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être. Mais c'était un génie dans son coin, quoi. Voilà, c'est un génie dans son garage et qui a eu la chance d'être trouvé au bon moment par les bonnes personnes, avec la bonne force de frappe, et ça, c'est ce qui fait tout son charme.
Ouais, et ben justement, on en arrive à cette période où Gunpei, jeune étudiant, n'arrive pas à trouver de boulot, désespère un peu, tourne un peu en rond, et puis finalement, il voit, je crois que c'est dans un journal, il voit une offre d'emploi chez Nintendo.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc il a passé ses années étudiantines à aller à la mer, parce qu'il adorait la plongée, et il fabriquait des...
record d'apnée même, je crois.
Enfin, ça, c'est son propre record, oui. Enfin, il a quoi, je sais plus
minutes,
exactement.
Hein, quand même, plus de 4 minutes.
T'as bien retenu, hein, bravo, 4 minutes 50.
C'est vraiment des vrais trucs, j'ai trouvé
ça
génial.
Et donc voilà, il passait, c'est ce qu'il explique avec beaucoup d'humour, il disait j'avais de mauvais résultats mais j'avais de très bons poumons.
Oui, c'est ça.
Donc il passait ses journées à la mer à pêcher le poisson avec les harpons qu'il fabriquait lui-même. Et donc au moment, en quatrième année, quand il est obligé de trouver du boulot comme ça se fait au Japon, évidemment il a fait une fac d'électronique, donc dans les années 60 c'est pas rien pourtant, mais c'est à cette époque où l'électronique japonaise décolle et que les grandes sociétés comme Sony, Toshiba, etc. décollent dans le monde entier. Et il recherche que les grosses têtes, quoi. Et Yokoi Gunpei, en fait, il se prend des râteaux à tous ses entretiens. Et personne ne veut veut de lui. Ouais. Donc finalement, il se dit bon, de toute façon, tant mieux, ça m'évite d'aller à Tokyo, puisque c'est pas vraiment une ville dans laquelle j'ai envie d'habiter, j'ai envie de rester à Kyoto. Et il trouve dans le journal de sa fac une petite annonce pour Nintendo. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, évidemment, aujourd'hui, Nintendo, waouh, il a eu la chance de rentrer à Nintendo, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, c'était un fabricant de cartes.
Il avait un peu honte de dire à ses amis.
Exactement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que pendant des mois, ensuite, il a refusé toutes les réunions d'anciens élèves de sa promotion, parce que tout le monde, ils étaient tous chez Sony, Toshiba, Matsushita, enfin des trucs très très célèbres. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je répare des machines à couper des cartes à jouer en papier. Voilà. Oui, et donc il avait honte, quoi.
Oui, parce qu'en plus au début, il crée rien. Il est réparateur.
Hein. Voilà, il fait de la manutention de machines à couper des cartes, quoi. Donc ouais, il a honte.
Et c'est là que Mother Brain. A.K.A. Yamauchi, le patron emblématique de Nintendo,
boss, ouais.
Va vraiment le prendre sous sa coupe, le détecter presque assez rapidement finalement.
Assez rapidement, ouais, quelques mois. Disons que ça part aussi d'une petite anecdote rigolote. Ouais,
c'est arrivé un peu par hasard en fait.
Un peu par hasard totalement, parce que bon, Yokoi Gunpei, c'était un bricoleur, on l'a dit tout à l'heure, mais comme il avait du temps à revendre, c'est ce qu'il explique très bien d'ailleurs dans ce passage, voilà, c'est pas une grosse société Nintendo, c'est une petite société, il y a quelques machines, et prendre soin des machines, ça lui prend 2h, 3h dans la matinée et rien de plus. Et il doit trouver de quoi s'occuper pendant le reste de la journée. Donc il s'amuse avec le matériel de manutention à fabriquer des petits gadgets. En cachette, évidemment, puisque c'est pas censé être son taf de bricoler. Et puis, il se fait choper par Yamauchi, qui rentre sans crier gare dans la salle et qui lui dit « Écoute, viens dans le bureau avec ton truc. » Il arrive dans le bureau, il est persuadé qu'il va se faire engueuler. Il fait « Montre-moi ton jouet. » Il trouve ça rigolo. Il fait « Bon, fais-en moi un jouet commercialisable. » Et c'est à partir de là que la carrière de Yokoi va décoller.
Finalement, c'est un peu comme Poufy, hein, qui, au lieu de monter des vidéos alors que c'est son boulot, fait des vidéos qui buzzent sur Internet avec René La Taupe et compagnie et qui cartonnent grave comme le Kung Fu Football. Voilà, Poufy, attention à toi, Poufy, tu vas devenir un génie bientôt.
Le Yokoi Gunpei de la vidéo.
C'est
voilà.
Ça.
Alors voilà, ça c'est le surnom, ça y était brandé là.
Et puis, alors qu'il pourrait jouer au poker et piler tout le monde, mais bon.
C'est ça, avec la technique de l'homme ivre. Mais nous n'en dirons pas plus. Excuse-nous pour cette petite digression.
Il n'y a pas de souci.
Et donc voilà, Yamauchi commence à le prendre sous son aile et c'est là où naissent tous les jeux qu'on a commencé à évoquer un petit peu, l'Ultra N.
L'Ultra Machine, le Tembillion, voilà des tas de jouets qui malheureusement ne parleront pas forcément chez nous, mais il y en a un certain nombre qui valent le détour. Hein.
Quel est celui qui a le mieux marché, en tout cas dans lequel il s'investit le mieux, et celui qui son petit jouet peut-être préféré?
Avant de rentrer dans les jeux vidéo, hein, on va dire, je pense qu'il y en a deux qui sont vraiment représentatifs, c'est l'Ultra End. D'une part, et puis ensuite
Espèce de main télescopique, c'est ça?
Oui, enfin, c'est une petite main mécanique qu'il a beaucoup améliorée. Parce que vous savez, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans les coucous suisses quand t'as le coucou qui sort, ça, ouais. Avec la main extensible. Le problème, c'est que quand on allonge la main, ça va forcément à l'extrémité refermer la main, mais quand on veut essayer de le faire ramener, ça s'ouvre et l'objet donc tombe. Lui, il met au point un objet qui permet de faire revenir l'objet sans qu'il tombe.
Sans lâcher prise,
voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une amélioration à ce niveau-là et qui en fait un jouet assez rigolo. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième que je verrais en dehors de l'Ultra Machine, qui est une machine à lancer des balles de ping-pong pour les amateurs de baseball, c'est le fameux pistolet optoélectronique qui, lui, est génial, est vraiment génial et qui représente en fait à lui tout seul pratiquement la magie de Nintendo. Parce que pour moi, Nintendo est un grand bluffeur, et je dis ça du bon côté de la chose, hein. Mais Nintendo, de tout temps, a toujours réussi à nous faire croire, entre guillemets, que les jouets qu'il nous proposait, c'était avant-gardiste, novateur et extrêmement high-tech. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ce jouet opto-électronique, en fait, c'est c'est un pistolet laser, tout simplement. Et à l'époque, en 1972-73, c'est révolutionnaire. Alors qu'en fait, ça utilise des technologies totalement basiques que tout le monde connaît déjà, puisque c'est des lentilles qu'on trouve déjà dans les ascenseurs, par exemple. Donc c'est quelque chose de pas forcément très novateur, mais qui a été repensé d'une manière à faire croire que c'était un jouet génial. Et personne n'y avait pensé avant. C'est ça qui fait toute la force.
C'est l'utilisation de ces inventions, effectivement, qui est révolutionnaire.
Voilà, ouais. Et c'est comme pour la Wii, hein. La technologie de la Wii, il n'y a rien de révolutionnaire dans le concept. Ça existait déjà avec le Power Glove, par exemple, sur la NES, c'était déjà ce système-là. Sauf que c'était moins au point, ça, forcément.
Bah, ça résume justement toute la philosophie de Gunpei Yokoi avec sa phrase, son mantra, la pensée latérale des technologies désuètes.
Exactement.
Qui revient très souvent dans la bio. C'est vraiment
C'est son leitmotiv.
Voilà. Ouais. C'est utiliser des technologies qui ont déjà servi, qui ont déjà fait leurs preuves, dont les coûts du coup ont baissé,
oui.
pour les réutiliser de manière ingénieuse, mmh. et comme tu le disais, faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est
le futur, exactement. Et c'est vrai que ce pistolet optoélectronique, en plus, ça marche du tonnerre, c'est vraiment très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est juste une lumière stroboscopique, et dans la cible, que ce soit un petit gunman ou un lion ou n'importe quoi, il y a une lentille photosensible, comme celle qu'on trouve dans les ascenseurs, entre guillemets, en gros. Et il suffit en fait que la lumière du stroboscope soit détecté par la lentille pour que ça crée une réaction mécanique qui va faire tomber. Donc c'est un truc tout bête en fait, hein. Le concept est vraiment tout bête, mais il fallait y penser, quoi. Et c'est ça qui est génial, et forcément ça a beaucoup fait parler de jouets quand c'est sorti à l'époque.
À ce moment du podcast, instant question. Parce que là, en t'écoutant parler, je viens de me poser un truc.
Ouais.
Ultra End, Ultra, je sais plus quoi, mais enfin
Ultra Machine,
Ultra 64.
Ultra, voilà. Ultra 64.
Oula, ouais.
Alors je sais que c'est un projet sur lequel il a pas trop touché, mais est-ce que c'est pas déjà une sorte d'hommage de machin ?
Bah au contraire, il était même plutôt contre. Alors je sais, non, honnêtement, je vais pas pouvoir te répondre parce que je sais pas du tout d'où vient ce terme de Ultra 64, qui était effectivement un des noms de code de la Nintendo 64. Est-ce que c'est un clin d'œil aux trois jouets ultra qu'il avait fait à l'époque ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Yokoi Gunpei, c'était pas du tout sa section déjà qui développait l'Ultra 64. Et puis qu'ensuite, lui, il était plutôt contre en fait. Il était absolument contre la surenchère technologique. Et parce qu'il trouvait que c'était justement un manque d'imagination. Et donc, non, je pense pas que ça ait vraiment de rapport.
Et cela dit, il était très respecté par tous ses collègues, etc. Et, donc, c'était peut-être un clin d'œil de leur part tout de même, même si lui n'a pas eu grand-chose à voir là-dedans.
Peut-être. Après, non, je rentrerai pas dans les polémiques, mais je pense pas que ce soit un... Enfin, je sais pas. Non, je peux rien dire à ce sujet parce que j'en sais vraiment rien, quoi. Non. Peut-être.
En attendant d'avoir peut-être un jour la réponse de l'un de ses collègues qui sortira la chose, ou pas. Après donc cette période vraiment dédiée aux jouets, Nintendo, enfin sous l'impulsion de Yamauchi, commence à s'intéresser aux jeux vidéo, aux loisirs électroniques, à se dire qu'une étape supplémentaire peut être passée.
Oui.
Mais qu'il faut toujours que ça reste dans des gammes de prix basses pour toucher un grand nombre, et que du coup il faut réussir à... améliorer les choses, à trouver des systèmes ingénieux. Et là, Gunpei Yokoi, ébloui de toute sa classe.
Alors, avant ça, malheureusement, je vais être obligé de te contredire, puisque Nintendo a eu une période folie des grandeurs,
ouais.
à partir de 1973, où ils vont se lancer dans le marché de l'arcade, mais très grande sensation, où ils vont utiliser en fait les fameuses salles de bowling qui commencent à baisser de succès pour faire de véritables simulateurs de balles trap lumineux.
Ah, oui, oui.
Et ça va être un échec total, malheureusement.
C'est vrai ?
Ils réutilisent...
Je me rappelle avoir joué à cela, même en France.
Je pense pas.
Des adaptations.
Mais... Oui, c'est des adaptations, je pense, mais parce que ça existe toujours. Tu vas à Disneyland, t'as toujours. C'est exactement la même technologie qu'à l'époque. Ça n'a pas changé. Ça a été inventé donc par Yokoi Gunpei. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il utilise en fait la technologie des pistolets optoélectroniques et il l'adapte pour les salles d'arcade. Parce que au lieu de tirer sur un petit truc qui est immobile, il se dit mais ce serait bien de faire de véritables simulateurs grandeur nature. D'où l'idée de faire ces fameux simulateurs de balles trap dans des espaces très grands. Et le problème, c'est qu'en 73, t'as le choc pétrolier, et le choc pétrolier au Japon a eu des conséquences phénoménales, puisque c'était une véritable panique où on a vu le prix des jouets notamment augmenter parce que les jouets en plastique allaient coûter beaucoup plus cher avec le pétrole. Enfin, on n'imagine pas. Il y a beaucoup de gens qui disent mais en quoi le choc pétrolier part d'une répercussion ?
Parce qu'on fait du plastique avec le pétrole, c'est la matière principale.
Exactement. Et puis dans le cadre de cette simulation, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a lancé un appel terrible en disant maintenant, faites attention, on va subir une crise vraiment terrible, un petit peu panique. Faites attention à vos dépenses, faites des économies, attention aux dépenses superflues. Forcément, les loisirs, ils y passent.
Bah oui.
Et toutes les salles qui avaient passé commande d'un matériel qui coûtait une fortune à développer, à créer, vont toutes annuler quelques mois à peine après le début en fait, de la production en masse. Et pour Nintendo, ça va être un coût terrible. Ils vont mettre 7 ans à rentabiliser leur...
7 ans
ouais, de 1973 à 80. Et c'est encore, l'idée était géniale et ça avait un grand succès les premiers mois où il y avait les quelques salles équipées, mais ça va s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, c'est un revers terrible pour Nintendo, et c'est Yokoi Gunpei qui va sauver un petit peu Nintendo en inventant les Game & Watch, mais en revenant effectivement, comme tu disais tout à l'heure, à des dimensions un peu plus humaines et un peu plus dans ce qui est capable encore de faire Nintendo à cette époque, c'est-à-dire du jouet et pas se lancer dans les paris d'attraction, quoi. Donc c'est les Game & Watch, ouais.
Alors justement, les Game & Watch, il y a eu d'ailleurs un volume hein, de chez Pixel 9 qui leur est totalement dédié. Ça a été une révolution hein, pour les joueurs de ces grosses bornes d'arcade, pas terriblement sophistiquées à l'époque, mais qui déjà marchaient très très bien. Là, on avait un jeu portable, pourtant très simple.
Oui.
Et l'histoire même de ces écrans et de la manière dont les concevoir est assez rigolote.
Ouais, c'est assez marrant parce que bon, il a eu l'idée du développement des Game & Watch, c'est une anecdote qui est connue maintenant, mais dans le train, alors qu'il revenait d'un voyage d'affaires depuis Tokyo, et c'était l'époque, hein, il faut se remémorer l'époque, la fin des années 70, c'est l'explosion des premières calculettes avec une guerre entre Casio et Sharp notamment, où même chez nous, on a tous eu une calculette quand on était petit en cadeau, c'était le cadeau super in à l'époque.
Vous arriviez à écrire L, Belle.
Il y avait des tas de trucs.
C'était 8, 3, 7, 7, 3.
Puis il y avait Soleil, etc.
Il y avait des tas de jeux. Voilà, il faudra que tu me leur donnes le code. J'ai oublié comment on fait, mais t'as un calcul, ouais. Tu racontes une histoire et puis tu tapes et à la fin tu dis Elbez. Bon, bref, on s'éloigne un petit peu.
Moi, c'est ça, j'écrivais Belle, moi.
Je faisais ça en 5e. Mais j'ai oublié, tu me redonneras le code. Je le cherchais l'autre jour. Et donc, il voit un salaryman qui s'ennuie dans son train et qui tapote sur sa calculette flambant neuve. Et il se dit, mais c'est marrant, il jouait qu'une calculette alors qu'il n'y a rien de drôle. Il tape des chiffres, il doit juste pour s'amuser avec son jouet. Il fait, ce serait marrant d'inventer des petits jeux de cette taille pour les hommes. Mmh. Et donc là, il pense même pas aux enfants, hein. Il pense aux hommes d'affaires. Et il a cette idée. Il pense pas tout de suite avec un écran LCD en fait. Hein. Et bon, cette idée, il en a tous les jours. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui pensait tout le temps à des tas d'idées. Il l'oublie un petit peu dans un coin de sa tête. Et un jour, il se rend compte que... Enfin, il y a le directeur des ressources humaines qui appelle Yokoi dans son bureau, alors qu'il est déjà directeur, et qui lui dit, écoutez, on a un problème, monsieur Yamauchi, il a une réunion importante à Osaka, et il a personne pour lui conduire, son chauffeur, il est malade. Alors n'importe qui aurait pu le remplacer, hein, sauf que la limousine du président, c'est une voiture occidentale avec un volant à gauche, et que Yokoi, c'est le seul de la société qui a aussi une voiture occidentale avec un volant à gauche.
D'ailleurs,
donc,
une belle voiture par rapport aux autres employés.
C'est un flambeur. Voilà, c'est encore
pour
draguer les filles.
C'est là où il a rencontré Yamauchi aussi. Sur le parking un peu, enfin qui lui a dit genre, vous êtes le... parce qu'il se garait plus loin.
Ouais, dans les années 70, c'est un étudiant qui adore flamber, hein, il adore impressionner les filles, donc il a une Jaguar. D'occasion évidemment, qu'il a pas payé très cher, mais il a une Jaguar, donc ça impressionne. Et c'est le seul en fait avec Yamauchi à Nintendo à avoir une voiture, parce qu'à cette époque, voilà, la voiture c'était encore quelque chose de très rare. Et il avait tellement honte parce que il sortait tout de suite de l'université, donc qui se garait très loin. Il est très japonais dans l'esprit. Et puis il y a Yamauchi qui lui a dit, mais tu vas te la faire choper ta bagnole, mais là dans un parking, on a un parking. Donc voilà, enfin ça c'était une anecdote qu'il a raconté. Mais voilà, il est obligé donc de conduire Yamauchi dans la voiture, mais le problème c'est qu'Yamauchi c'est quelqu'un qui est très... qui en impose, qui a un charisme tellement fort qu'on se sent tout petit à côté de lui. Et ça l'ennuie parce qu'il va être obligé de lui parler pendant tout le trajet de travail, etc. Donc il se dit, bon allez, pour meubler la conversation, bah, je vais lui parler de cette idée. Il lui dit, voilà, j'ai une petite idée. Est-ce qu'il pourrait être marrant de faire des petits jouets, hein, mais tout petits, mais pour les adultes. Voilà, j'ai vu un gars dans le train avec un écran de calculette. Et il s'avère, en fait, encore un hasard, parce que déjà la voiture c'était un hasard, mais il s'avère que pendant la réunion, M. Yamauchi est assis à côté du président Akira Saeki, qui est le président de Sharp, leader mondial des écrans de calculette. Et qui lui en touche deux mots pendant la pause de midi. Et puis la semaine suivante, M. Saeki envoie un représentant de Sharp chez Nintendo pour parler du projet.
Ça va vite. Hein.
Ça va très vite. Et en fait, M. Yokoi, il était, lui, une fois que l'aller-retour s'est passé, il était content. Il a fait, c'est bon, j'ai réussi à passer les deux heures de trajet. Et il ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des suites, parce que le président, il n'avait pas l'air intéressé plus que ça dans la voiture. Et la semaine suivante, quand il voit le gars de Sharp, il ne comprend pas. Il fait, mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis il y a Yamauchi qui dit, mais c'est toi qui m'as parlé de petits jeux calculettes. Enfin, il a un peu tout mélangé dans sa tête, mais finalement, ça correspondait bien. Et le projet Game & Watch se lance, voilà.
Ça, c'est quand même les hasards dans la vie. Ça va paver l'histoire de Gunpei.
Ça n'existe pas le hasard.
Mais c'est une invention géniale parce que là encore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Sharp va continuer, alors qu'il pensait la production des écrans de calculettes commençait à diminuer. On commençait à en faire en Chine, on commençait à en faire un peu partout, donc ça commence à diminuer et ils voyaient le marché s'effondrer, donc ils disaient bon, il faut passer à autre chose, il faut arrêter les LCD, quoi. Et en fait, le renouveau, ça va être un véritable renouveau pour le LCD et ça va sauver quelque part un petit peu l'industrie de l'écran LCD et même permettre de poursuivre les recherches du LCD, puisque après les Game & Watch vont innover en apportant des techniques de LCD en couleur. Et après, moi je suis pas certain de ça, mais il y en a qui disent, parmi les ingénieurs de Sharp, qui disent que ça a permis, finalement, les Game & Watch ont joué le rôle de pont qui ont permis de développer les écrans TFT d'aujourd'hui, les écrans d'ordinateurs portables. Et sans les Game & Watch, peut-être que ça serait arrivé plus tard, que les technologies auraient été différentes pour les écrans à cristaux liquides, du moins. Donc c'est plutôt marrant de se dire que les Game & Watch, c'est pas sûr, hein, moi je donne pas ma main au feu pour ça, mais il y a des ingénieurs qui le disent. Donc on veut bien les croire, parce que ça fait une jolie histoire au final, quoi.
Clairement. Au niveau des Game & Watch, une fois qu'il a créé l'engin, la technologie, l'idée, la manipulation, il va créer des jeux aussi ? Ou de manière très limitée ?
Ben, il va créer des jeux dans le sens, quand tu parles de jeux, en dehors des Game & Watch.
Ouais, ouais.
Oui,
sur Game & Watch.
Oui, sa section, en fait, c'est une section où, vous savez, le jeu vidéo, on sait encore rien. La plupart du temps, le software est développé par les gars qui font du hardware, parce qu'il n'y a pas de programme, c'est vraiment des composantes, c'est les composants qui sont mis les uns avec les autres pour faire des jeux. Donc software, hardware, c'est la même chose. On ne distingue pas encore vraiment à cette époque, et encore moins à Nintendo, les deux choses. Donc oui, la section de Yokoi Gunpei, qui est chargée de faire les Game & Watch, ils font les jeux aussi, ils font pas que le hardware, ils font aussi le software, donc les deux sont en arrêt.
D'accord. Bon, je crois que là il est temps de passer à la révolution, au bouleversement.
Révolution.
C'est je crois la console qui a marqué toute une génération. Hein.
Oui.
Le Game Boy, comme il faut le dire en vrai.
La Game Boy.
Officiellement,
oui.
Ouais. Officiellement. Le système de jeu Game Boy.
Là, on passe à tout autre chose. Là, c'est un autre univers. Et une fois de plus, gorgé d'anecdotes, ne serait-ce que sur l'écran. Il
ouais.
faut quand même savoir que ce foutu écran monochrome, hein, il y avait, je crois, c'est quoi, 8 ou 11...
Il y avait 4 tons gris.
4 dégradés. Ouais.
4 dégradés de gris. C'est finalement un hasard, presque, d'avoir réussi à le faire fonctionner comme ça. Ça a été un aller-retour...
Ouais, ce serait très long à développer, mais effectivement, il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes à développer son écran, parce que, voilà, à cette époque, les écrans à cristaux liquides, il y en avait déjà en couleur, etc., mais c'était pas vraiment fiable, ça consommait énormément d'énergie. Lui, il a opté, en fait, pour un...
Déjà pour le noir et blanc.
Pour le noir et blanc, ouais.
Ce qui est déjà une sacrée lutte.
Et,
quand même.
Et sachant qu'à côté, il y avait effectivement déjà de la couleur, etc., comme tu l'as précisé.
Ça existait, ouais.
Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand le Game Boy est sorti, c'était un premier jugement un petit peu rétrograde. On se disait, ça repart en arrière, il n'y a pas de couleur.
Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le processus de Yokoi Gunpei, c'est que. Nous, on en a pas du tout conscience. La Famicom était déjà sortie, la NES était déjà sortie. Quand on voit arriver la Game Boy, parce que moi je dis là, désolé pour tous les puristes,
mais
quand on voit arriver la Game Boy, on se dit, mais pourquoi un écran noir et blanc ? Alors que dans la tête de Yokoi Gunpei, tout le monde se disait, mais c'est une Famicom portable. Alors que pour lui, non, c'était une évolution du Game & Watch.
Pour moi, dans ma tronche, quand j'étais gamin, c'était ça. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est extraordinaire, on va avoir un petit truc portable dans lequel on va pouvoir insérer des cartouches comme une console de jeu.
Ouais.
On va pouvoir avoir des tas de jeux qu'on va pouvoir racheter, utiliser tout le temps le même truc et tout. Et c'est marrant, moi j'ai pas tiqué à l'époque vachement sur le
côté Famicom portable ou
non, sur l'écran noir et blanc.
Ouais.
Ça m'avait pas choqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais qu'une envie, c'était d'avoir une Game Boy, quoi. Le jour où j'en ai une,
comme tout le monde, hein.
Ouais. J'étais aux anges, quoi.
On en a pas conscience parce qu'il y a la RND1 qui fait les Game & Watch et ensuite la Game Boy, et la RND2, enfin j'y arriverai jamais, mais RND2 qui fait la Famicom. C'est vraiment deux sections différentes qui ont deux projets différents. Et lui, donc, il ne voit qu'une chose. Après la baisse de popularité des Game & Watch, il se dit, je vais faire une version un peu plus sympa. Vu qu'on est très limité avec nos écrans, puisqu'on est limité à chaque fois, c'est des positions qui sont toujours les mêmes, ouais. On va faire un écran qui permette, en fait, de développer de façon libre. Et il veut reprendre le même concept, le concept de portativité d'une part, et ensuite d'autonomie, qui est pour lui l'une des grandes forces du Game & Watch,
ouais.
Qui permet de jouer pendant des heures et des heures sans avoir à changer les piles. Et ça, il n'y a que l'écran noir et blanc qui permet, quoi.
Avec des désillusions personnelles, hein, puisque par exemple, je me rappelle une anecdote qu'on retrouve dans le livre, où des amis lui avaient offert une petite télévision portable qui se faisait beaucoup au Japon à cette époque, qu'il la met, commence à la regarder, au bout d'une heure, bim, l'écran s'arrête, et qu'il était meurtri en se disant, merde, je l'ai abîmé, je l'ai cassé, etc. Jusqu'au moment où il découvre que
c'était juste les piles. Batterie, on se souvient tous de la Turbo GT, enfin la PCMG GT. Ou la Lynx ou n'importe quoi, ou la Game Gear tout simplement, des jeux de piles
entre 2 et Ouais. Au mieux 6 heures avec le vent dans le dos d'autonomie. Alors qu'une
6 heures, j'ai jamais eu moi.
Alors c'était... qu'une Game Boy, c'était 26 heures.
En Belgique, ça pompe un peu moins.
Non, c'était 2-3 heures maxi sur la Game Gear, par exemple, que j'ai eu. J'adorais, mais c'était un cauchemar à chaque fois.
Et c'est ça l'ironie. L'ironie du truc, c'est qu'on termine aucun jeu en 2-3 heures. Et ça, c'est une réflexion que tout le monde lui faisait. C'est pour ça qu'il a commencé en fait à se méfier des ingénieurs Yokoi Gunpei. C'est qu'il disait, mais pourquoi vous mettez pas un écran couleur? Ce serait quand même plus logique. Il fait, oui, mais avec un écran couleur, vous voyez, ça va durer 2 heures. Et les ingénieurs lui disaient, bah dans ce cas-là, vous utilisez un adaptateur secteur. La réponse de Yokoi Gunpei, parce que lui, il ne comprenait pas, c'était pour lui, c'était absolument aberrant de faire ça. Il fait, mais oui, mais si vous jouez chez vous à côté d'une prise, autant jouer à la Famicom, quoi. Ça sert à rien. Tout le monde l'a en plus. C'est la moitié des foyers au Japon sont équipés, tous les enfants l'ont. Pourquoi s'ennuyer? Voilà, c'est une console portable, c'est pour jouer dehors. Et ça sert à rien d'utiliser un adaptateur. Je veux pas d'adaptateur. Voilà.
Bah, d'ailleurs, on voit, et ça se sent dans le livre, qu'il y a eu quand même globalement des luttes entre les techniciens et la partie créative, ouais. Donc Gunpei Yokoi créatif, les techniciens toujours veulent rajouter plein de choses, mettre plein de features, pousser la technologie. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, il faut aller plus simple.
Exactement. C'était son côté inventeur du dimanche. Lui-même l'expliquait qu'il était pas forcément très doué en technique. Voilà, il a suivi ses études un petit peu par-dessus la jambe. Donc, il n'était pas non plus un ingénieur extrêmement calé. Donc, il avait un petit complexe par rapport à ça. Donc, il allait évidemment à la simplicité. Et c'est ce qu'a fait un petit peu après sa philosophie et ce qui a gravé la philosophie Nintendo. Mais c'était la simplicité, le pragmatisme. Voilà. Il prend des exemple tout bête, hein, mais du four à micro-ondes, il y a toujours plus d'options, alors qu'en fait, on se sert toujours que d'une seule fonction dans le four à micro-ondes, quoi. Donc, il allait au pragmatisme, et c'est ce qui a fait le succès de tous ces jouets, finalement.
Au niveau de la Game Boy, est-ce qu'il nous reste des choses à dire centrales? Parce qu'après, effectivement, on pourrait en parler des heures, parce qu'il a participé à plein de jeux en plus sur Game Boy.
Ouais, mon Dieu, il y en a vraiment tellement. Je pense qu'on peut passer à la suite. On pourra y revenir parce qu'on fera des recoupements sur trous. Mais...
Oui, parce que son dernier travail chez Nintendo, finalement, fut aussi la Game Boy.
Oui.
Un relooking de Game Boy, on reviendra dessus.
On en reparlera, ouais.
Exactement. On passe à une période un petit peu plus complexe.
Ouais.
Le Virtual Boy.
Ouais, ok.
J'ai oublié quelque chose entre les deux.
Non, pas.
J'ai un doute là.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, ouais, c'est quand même, on le disait en début de podcast, ce mec a quand même inventé la croix de direction.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est juste vrai. Énormissime. Ce mec, il a déjà changé toute la face du jeu vidéo tel qu'il a évolué jusqu'à maintenant.
Microsoft, il arrive toujours pas.
Voilà. Elle était très bien la première croix de direction. Non.
Elle était très brevetée aussi, je crois.
Ouais. En parlant de brevets, ce qui est marrant, c'est que la croix multidirectionnelle, elle est même pas brevetée par Yokoi Gunpei. Il y a une anecdote, d'ailleurs, il explique très bien. Parce que Yokoi Gunpei, en fait, il s'en foutait complètement de ces trucs-là, et ça l'ennuyait en fait de remplir les dossiers, parce qu'il faut savoir que les dossiers de brevets sont extrêmement compliqués. Donc il y avait une section à Nintendo qui le faisait très bien, et Yokoi Gunpei, il avait juste à relire, etc. Donc ça l'ennuyait tellement qu'il disait, écoute, je te fais confiance, tu mets ce que tu veux. Il a même dit au gars qui s'occupait des brevets, écoute, mets ton nom, moi je m'en fiche. Et donc en fait, le nom qui apparaît sur le brevet de la croix multidirectionnelle, c'est pas celui de Yokoi Gunpei, mais c'est le
Julien Chiez. C'est bizarre.
Et il s'est fait ensuite engueuler parce qu'il se rendait pas compte pour lui, et c'est ça en fait le propre des idées géniales, c'est qu'une fois qu'elles apparaissent, on se dit mais oui, mais c'est simple comme bonjour. Et l'idée en fait de la croix multidirectionnelle, personne n'y avait véritablement pensé avant, et quand ça va sortir, évidemment tout le monde va se précipiter dessus parce que c'est un moyen de gérer des interfaces tellement plus simples qu'un joystick d'avant, ça, c'est tellement plus ergonomique, facile et moins cher et solide que tout le monde va se jeter dessus. Et voilà, il va y avoir forcément des problèmes de copie, les preuves de brevet vont être super importantes, et quand ils vont commencer à avoir des problèmes de brevet et que Yamauchi va se rendre compte qu'en fait ça a été fait encore par-dessus la jambe et que le nom du brevet c'est un employé alors qu'il n'est même pas du tout ingénieur ni inventeur, ils vont tous se prendre en fait encore un savon par rapport à ça, quoi. Voilà. Mais c'est une idée géniale et qui a marqué son temps, hein. On se souvient tous de la manette de la Master System, de la Mega Drive, où ils ont fait un simili de rond à côté pour éviter les problèmes de... Alors qu'en fait, ils ont tous utilisé le même système, et c'était génial. Et
oui, jusqu'à... En dessous, ouais, c'est pareil. En dessous, ça marche pareil.
Ouais, en dessous, finalement, je pense que c'est la même chose. Bon, bref, je pense que Nintendo, à cette époque-là, n'était pas très, très ennuyé. Ils n'ont pas vraiment fait de problème à personne. Mais en tout cas, c'est une idée géniale et qui, jusqu'à l'écran tactile, n'avait aucun opposant, quoi. Et c'était le truc le plus génial. Et même Bill Gates a dit, l'interface du futur, c'est la croix multidirectionnelle. Il avait pas tort, hein, tous les téléphones ouais. l'ont utilisé pendant 10 ans et puis bah, maintenant on est passé à autre chose.
Mais tu soulevais tout à l'heure qu'avant ça existait des joysticks ouais. Qui ont été ramenés par la suite et qui sont des sticks analogiques parce que par exemple sur les Apple II ou ce genre de choses là, il n'y avait pas de croix directionnelle, c'était des manettes analogiques déjà à l'époque et en ouais. fait ça a quand même été ramené par la suite et ça a pris une importance phénoménale aujourd'hui.
Ouais, non, mais je crois qu'il n'y a pas deux solutions miracles. Hein. Après, ça évolue, quoi. C'est comme toutes les inventions, rien ne naît de zéro. On s'est tous inspirés de quelque chose. Et évidemment, Yokoi Gunpei s'était inspiré des joysticks. Lui, la problématique, c'était d'inventer en fait un joystick pour adapter Donkey Kong sur un Game & Watch. Mmh. Et ça, il s'est dit, bon, les Donkey Kong, vous le connaissez tous, le Game & Watch, c'est un truc qui se referme. Le problème, c'est que comme il avait deux écrans, il fallait le refermer, mais qu'un joystick, ça ne fermait pas.
Bah oui.
Donc, il fallait trouver un moyen pour arriver à... Ensuite, avec la taille, vous imaginez, un petit bout de plastique, t'appuies trop fort, le plastique, il casse. Donc, il y avait plein de petits problèmes qui lui ont demandé de faire évoluer le système du joystick. Et c'est né, voilà, et c'est comme ça qu'est née la croix multidirectionnelle. Mmh.
Mmh. Et qui est une sacrée belle invention.
Oui.
Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas en termes de succès, en tout cas, du Virtual Boy. Et pourtant, ouais. tout est né d'une vraie envie de bouleverser une fois de plus les choses, d'être différent de la concurrence, et un vrai soin, parce qu'on le sait, hein, le Virtual Boy était beaucoup critiqué, parce ouais. que ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête, etc. Ouais. Il y a eu plein de versions, enfin plein, quelques versions du Virtual Boy.
Ouais.
Il y a un organisme aussi au Japon qui est très méticuleux sur les normes de sécurité,
ouais.
parce que, de santé. Et ça, Gunpei Yokoi, dès le début, on était conscient et a vraiment travaillé sa machine pour qu'elle soit...
Ouais.
plus à même de correspondre à tout ça.
Ce qu'il faudrait un jour, c'est faire un podcast entier sur le Virtual Boy parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce truc en fait. Ce qui est très triste en fait avec ce jouet, c'est qu'il est totalement incompris et que Yokoi Gunpei en fait, c'est son erreur et lui-même en cours de développement s'est dit non, on va se planter. Il l'a même dit lui, c'est pas dit clairement, mais je sais pas comment le dire en français, mais il y a un terme en japonais qui dit kuyashi. Kuyashi, ça veut dire c'est être.
On a couillé.
Ouais, c'est presque ça, mais il est dégoûté. En fait, il a un énorme sentiment d'amertume et de dégoût par rapport à. Enfin voilà, il est déçu de ce qu'il va faire. Il s'en rend compte, mais c'est trop tard.
Un mauvais pressentiment, en fait, c'est ça.
Ouais, parce qu'il se rend compte que son jouet est totalement incompris et qu'il va jamais réussir à toucher le but qu'il s'est lui-même fixé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Virtual Boy a été développé. Totalement à contre-courant de ce que les joueurs ont tendance à croire aujourd'hui et c'est pour ça que c'est très mal compris aujourd'hui, c'est que le Virtual Boy il le veut comme un jouet qui va sauver l'industrie du jeu vidéo. Ça paraît très présomptueux dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en 95-96, il y a la Nintendo 64 qui arrive, le jeu gagne en popularité auprès des jeunes adultes, mais on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens qui jouent quand même finalement, au Japon du moins, et parce que les jeux se complexifient, ils demandent un investissement en temps qui est tellement compliqué qu'on s'éloigne de l'essence du jeu vidéo en tant que tel, que plus personne, il y a de plus en plus d'enfants qui regrettent l'époque Famicom, etc. Et il se dit on va créer un jeu avec du plaisir simple, mais qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, pas des jeux vidéo comme on se convoit avec la PlayStation, etc. Et il invente en fait un univers virtuel, et le principe du Virtual Boy en fait c'est ça, c'est donner quelque chose de nouveau à des non-joueurs, à du casual tout simplement, pour
ouais,
faire
c'est...
des petites parties.
Ouais, c'est là où c'est totalement incompris, c'est que tout le monde, la presse et les joueurs ont cru que c'était le high-tech pour les hardcore gamers,
voilà.
C'est-à-dire on met le casque de réalité virtuelle, c'est vraiment pour les gamers, alors qu'en fait c'était pas du tout sa philosophie.
Voilà, et c'est aussi un peu, on peut pas leur donner tort aux joueurs hein, non plus, parce que c'est vrai que moi-même quand je l'ai vu la première fois j'ai fait waouh, c'est un truc super high-tech, alors qu'en fait non. Mais ça on le découvre quand on connaît mieux Yokoi Gunpei, c'est pour ça qu'il s'est mal compris. On peut pas en vouloir, c'est son erreur, et il le reconnaîtra lui-même, c'est une erreur qu'il a commise, mais c'est un jeu qui a été effectivement classé directement comme un truc high-tech pour les hardcore gamers, alors que non, pas du tout, c'était un petit jeu pour les à l'origine hein, du ouais. moins.
Et alors il y a des choses que moi j'ai apprises vraiment dans cette biographie que je trouve vraiment passionnante, c'est le simple fait des couleurs, parce qu'on le sait hein, pour ceux qui ont pu mettre la tête, les yeux dans le Virtual Boy, c'est noir et rouge.
Oui.
C'est ce qui fait que parfois au bout d'un moment on a un petit peu mal à la tête. Bah, c'est pas un choix innocent, c'est même la technologie en elle-même a été faite pour avoir ce noir intense, parce qu'en fait dans sa tête c'est pour ne pas mettre de limites.
Oui.
Avoir un espace de jeu infini autour de soi.
Exactement, et ça c'est un point extrêmement intéressant et qui peut éventuellement mettre d'accord un grand nombre de détracteurs. Mais s'il a pris du noir et blanc, du rouge et noir, pardon, c'était pour des raisons technologiques et aussi pour des raisons de santé. On y reviendra après parce que c'est le plus gros malentendu qui est au sujet du Virtual Boy, et j'espère convaincre différentes personnes qu'il y a un vrai malentendu à ce sujet-là. Mais il aurait pu, c'est la remarque qu'on lui a tous fait évidemment à cette époque, pourquoi pas prendre des petits écrans LCD déjà ? Et il s'est rendu compte de deux choses, c'est que d'une part les écrans LCD rétroéclairés de l'époque qui n'utilisaient pas la technologie des LED faisaient mal aux yeux. Tout simplement parce que c'est pas les écrans qu'on a aujourd'hui sur nos iPhones, etc. Ça défonçait vraiment les yeux à cette époque. Et puis ensuite, il y avait des contraintes technologiques, ce qu'on appelle les noise, les bruits émis par les composants électroniques. C'est pour ça que le casque du Virtual Boy, il est assez gros. C'est justement pour des raisons de sécurité.
Pour
protéger les ondes. Et, donc le truc, il est absolument sans danger. Et le point intéressant en termes de concept, c'est qu'il utilise un écran de LED à LED. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux écrans LCD, les LED, quand elles ne sont pas utilisées, elles sont noires. Et le noir, c'est le problème des écrans LCD plasma d'aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive toujours pas à faire un noir parfait. Et l'écran en fait de LED, quand les diodes sont pas utilisées, elles sont éteintes, donc noires. Il y a aucun problème. Et une fois qu'on a les yeux en fait dans ce casque, quand les LED sont éteintes, on a une impression de totale obscurité et donc d'infini, qui était totalement impossible avec un écran à LCD, puisque même si on a des contours noirs, on voit de toute façon une rémanescence, rémanence ouais, d'écran, et ça fait gris. On voit de toute façon les contours de l'écran, donc on n'a pas du tout la même impression d'immersion. Et c'est en ça qu'il y a malheureusement très peu de jeux qui mettent vraiment bien en valeur le Virtual Boy. On nous ressort toujours le tennis, le Mario Clash, qui sont sympas, quoi, mais c'est pas du tout ça le véritable but. Le flipper est pas terrible non plus, honnêtement. Il y a quelques jeux vraiment qui utilisent bien la 3D. Il y a le jeu de golf qui est excellent. Ouais. Il y a un shoot, c'est Red Alert, je crois, qui est fait en polygone et qui donne une sensation de 3D qui est vraiment très bien. Mais il y a très peu de jeux, c'est ça le problème. Mais avec contrairement à la 3DS, là on a vraiment les trucs qui nous pètent à la gueule. Hein.
Moi j'ai adoré le tennis, hein, vraiment. Enfin moi j'ai toujours été un fan de Virtual Boy, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu le seul, quoi.
Ouais. Et
ça changeait tellement de ce qu'on avait connu que on rentrait vraiment dans une nouvelle dimension, quoi.
Ouais, ça a pas du tout été un succès Virtual Boy pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que la presse a été malheureusement assassine. Alors que lui, c'était son plus grand regret, quoi. Il disait, mais c'est pas à vous, la presse, c'est pas à vous, les Famitsu et compagnie, de parler du Virtual Boy. C'est un jouet, c'est pas pour les gamers, n'en parlez pas. Vous continuez avec vos PlayStation, etc. Laissez les Virtual Boy pour les autres qui veulent s'amuser, découvrir des sensations nouvelles, sans se prendre la tête. Ok, c'est pas très joli graphiquement, mais c'est pas pour vous de toute façon. Le problème, c'est que comme tous les joueurs disaient, mais c'est moche, et en plus, ça fait mal aux yeux, non, c'est vraiment pas terrible, et personne l'a acheté, quoi. Et ça a été le grand drame de Gunpei Yokoi.
Il y a un truc qui m'avait déçu à l'époque, moi. C'est, tu parlais de se prendre la tête, c'est justement le fait que cette espèce de ce qui était à la base en fait un casque qu'on met devant les yeux, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il fallait le mettre sur un trépied et pas pouvoir le porter en fait directement sur la tête, et pour pas que les enfants ou les gens quoi, se coupent du monde.
C'était prévu initialement.
Ça
m'avait super déçu.
Mais voilà, le problème, c'est que c'est vrai que les joueurs... Mais je comprends, hein, mais c'est pour ça qu'après, sur les forums et sur les commentaires, ne me descendez pas, je me fais pas du tout l'avocat du diable. Mais il explique lui-même que la technologie permettait déjà de faire des lunettes de soleil avec des écrans. Ça aurait été la même chose, de la taille de lunettes de soleil. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, d'une part, à cause des fameux problèmes de bruit, de rémanence, et puis d'autre part, pour une autre raison toute bête, c'est que voilà, une fois que t'es trop pris dans ton jeu, et si t'as juste des lunettes, les mecs, bah ils vont marcher tout droit, ils vont se prendre un mur, simplement.
Moi, je me disais, je pourrais pas y jouer dans la bagnole pendant les longs voyages.
Nintendo peut pas se permettre de sortir un truc.
Exactement.
Comme ça,
et Nintendo,
un peu dangereux, entre guillemets,
quand tu es de la taille de Nintendo et quand on sait les crash tests qu'ils sont obligés de faire, etc., c'était totalement impossible. Il y a que du Made in China à cette époque qui aurait pu se le permettre, parce qu'ils savaient que derrière ils s'en foutaient de ce qui allait arriver. Mais Nintendo pouvait pas se le permettre. Et voilà pourquoi c'est pour ça qu'il est dégoûté, lui, quelque part. C'est qu'ils avaient déjà engagé tellement de frais dans le research and development qu'ils sont arrivés à un point de non-retour et qu'il n'obtient pas du tout ce que lui veut. Il voulait pas ça et il obtient quelque chose qui ne le satisfait pas non plus, quoi.
Mais je pense qu'à l'époque, on a tous, vraiment tous, mal compris ce que c'était.
Normal, hein. Personne ne pouvait le comprendre. C'était impossible. Donc,
et surtout, c'était à une époque où on parlait beaucoup des réalités virtuelles. Et d'ailleurs, tu te rappelles, il y avait vous vous rappelez forcément, la couve de pad là-dessus.
Avec le casque.
C'était à cette époque-là, il y avait des trucs dans les salles de jeu, machin, etc. C'était genre, genre ces casques de réalité virtuelle que tu te mettais sur la tronche et quand tu tournais la tête, etc. Et comme ça ressemblait vraiment, enfin le Virtual Boy ressemble à ça complètement, les gens se sont
encore une fois ça fait partie des inventions entre guillemets qui sont trop en avance sur leur temps, quoi.
Peut-être
parce que regarde maintenant, on va avoir la 3DS et la 3D à la télé. Bon, c'était pas la même 3D qu'aujourd'hui forcément, puisque mais technologie, mais c'était quand même les prémices, quoi.
C'est effectivement un grand gâchis pour lui, pour Nintendo, pour les joueurs aussi. Enfin, c'est un échec sur toute la ligne, très honnêtement, et on le regrette tous, et lui en premier. Voilà,
c'est d'ailleurs une des raisons, enfin on va en parler après j'imagine, qui ont fait qu'il est parti après de chez Nintendo, quoi.
Non, c'est ça qui est très intéressant avec Florent. Mais ouais, revenir sur le justement, parce que moi c'est un point qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai que tout le monde a essayé le Virtual Boy, enfin je suppose que parmi les game bloggers il y en a beaucoup, et ils en sont tous ressortis avec une migraine. On est tous d'accord avec ça, et ça c'est quelque chose d'assez bluffant. C'est que moi personnellement, quand j'ai lu la bio au début où je lisais Yokoi qui disait de but en blanc, non, il y a une erreur, nous évidemment qu'on a fait nos recherches, est-ce que c'est mauvais pour les yeux, est-ce que c'est mauvais pour le cerveau, vous pensez bien qu'on a fait nos recherches, évidemment qu'on n'est pas bête, et ils en sont venus à la conclusion que non, ce n'était pas mauvais pour les yeux, ou que même au contraire, c'était même très bénéfique pour les yeux, parce que les petites douleurs qu'on ressentait, les yeux qui piquaient ou les yeux qui pleuraient,
c'était de la fatigue visuelle, que
c'était l'équivalent des courbatures pour le muscle. Alors moi j'ai trouvé ça un peu gros au début. Je me suis dit bon, il essaie de se justifier. J'ai du mal à y croire. Moi c'est pareil. J'ai essayé. J'ai le Virtual Boy évidemment. Ça me faisait mal aux yeux. Et j'avais du mal à y croire. Je me disais non, il doit bluffer. Et je me suis rendu compte en fait après en faisant mes recherches sur l'histoire de Nintendo, en rencontrant des gens de chez Nintendo, notamment des gens qui faisaient du debug et même du développement sur Virtual Boy. Voilà. Et on en venait en fait à parler du Virtual Boy. Et je lui disais, mais vous aviez pas un peu souffert, notamment les gens qui font du dev. Vous imaginez, passer toute la journée à faire du développement, à tester. Vous aviez pas mal aux yeux. Et vous me croirez ou pas, mais je suis certain qu'il y en a qui ne croiront pas. Mais en tout cas, deux personnes à des distances totalement opposées qui travaillaient pas du tout dans le même studio. Il y en avait un gars qui était au debug Super Mario Club, enfin tout le monde n'a pas entendu parler du Super Mario Club, et un autre du bureau de développement qui m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont fait non, moi j'ai vu mon acuité progresser grâce au Virtual Boy. Je fais mais vous rigolez. Il fait non c'est vrai, c'est pas des bêtises, on travaillait tous les jours sur Virtual Boy. Au début on s'inquiétait un petit peu, on a un petit peu servi de cobaye certainement pour Nintendo, j'en sais rien, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que grâce au Virtual Boy, après des mois passés à développer ou à faire du debug dessus, j'ai plus eu besoin de porter des lunettes. Et c'est un truc fou. Aujourd'hui, quand on y pense, c'est un truc fou. Après, le Virtual Boy est mort, ils sont passés à d'autres choses et ils ont vu leur acuité baisser après. Et le studio de développement, un gars qui a fait un jeu, malheureusement, je ne peux pas citer son nom, mais qui a fait un jeu sur Virtual Boy et qui me dit, moi, c'est pareil, mon acuité, elle a augmenté grâce au Virtual Boy. Et ça paraît dingue, alors que tout le monde le descend juste pour ça. Alors qu'on ferait un effort, rebranchez votre Virtual Boy et jouez.
C'est ce qui va se passer avec la 3DS. Hein. Parce que la 3DS, c'est exactement la même chose, c'est de l'autostéroscopie. Donc en fait, ça, et qui est le même système finalement un peu que le Virtual Boy, c'est qu'il faut loucher un tout petit peu. Et que les yeux font la mise au point tout seul.
C'est la stéroscopie, voilà. Quelque part.
Et du coup, au final, quand on y joue, et moi je l'ai ressenti, j'imagine que vous l'avez ressenti aussi.
Il y a un moment où je décroche, moi.
Ah ouais?
Ouais.
C'est-à-dire que t'es pas assez musclé dans
voilà,
tes
je suis
orbites.
Pas musclé des yeux, mais il y a un moment.
Mais bientôt tu feras comme ça. Bonjour, je m'appelle Hubert.
T'auras plus besoin de lunettes. Voilà.
Non, mais c'est vrai, et ça fait, on sent vraiment en fait bah, carrément le bloc oculaire, le voilà, qui et ça travaille quoi.
Ouais.
Donc ça se trouve grâce à la Nintendo 3DS, dans quelques temps, on sera tous sans lunettes.
Moi, je crois, je suis loin d'être un fanboy Nintendo, parce que je pense être quelqu'un d'assez lucide à bien des égards, mais je pense que Nintendo est pas stupide. Et quand ils ont mis au point cette technologie, c'est les premiers à se demander est-ce que c'est mauvais pour la santé. C'est tout, c'est bête hein, comme en réflexion, mais je pense que c'est vraiment le cas. Et le Virtual Boy, c'est peut-être déjà le cas. Donc voilà, le malentendu, je suis certain évidemment qu'il y a des gens qui resteront sceptiques par rapport à ça, qui voudront en avoir des preuves par A plus B. Moi, je sais pas quoi en penser parce que j'ai pas essayé suffisamment pour devoir enlever mes lunettes, mais je veux bien croire.
Lunettes, effectivement.
J'ai été dubitatif en lisant la bio au début de Yokoi Gunpei. Je me suis posé des questions quand on m'a dit la première fois j'ai fait du debug pendant 6 mois et j'ai vu ma vue augmenter. Et puis 2 mois plus tard, entendre un autre gars qui ils se connaissent pas les uns les autres et qui me dit moi j'ai développé pendant un certain nombre de mois aussi et c'est vrai que ça m'a amélioré la vue. Donc quand tu entends ça, tu commences à te poser des questions, tu dis mais alors peut-être qu'il avait raison et peut-être que c'est finalement un grand gâchis, j'en sais rien. Voilà.
En tout cas, regardez aussi sur, là au niveau de la manette du Virtual Boy. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué et qu'on retrouvera tout à l'heure en fin de podcast avec la WonderSwan, qui est finalement un petit peu la création post-mortem de Gunpei Yokoi. C'est le côté ambidextre. C'est la première manette sur laquelle les croix, il y en a deux, à droite à gauche, et les boutons, les A et B, sont les mêmes, les réplicas du Select et Start, et que du coup, qu'on soit droitier ou gaucher, on a strictement la même prise en main.
Eh ben, tu te trompes. Non, c'est pas ça. Parce que si t'es droitier ou gaucher, en fait, c'est pas trop ça. C'est que il faut voir cette amélioration comme l'ultime étape juste avant le stick analogique.
Ouais.
Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est Sony qui a réussi à trouver la réponse ultime à ça. Mais Yokoi Gunpei, en créant le Virtual Boy, il s'était dit on va avoir des univers en trois dimensions, donc il faut pouvoir bouger dans les trois dimensions. Et il avait déjà pensé à la problématique de la caméra.
Ouais, de pouvoir regarder dans une direction différente,
exactement,
de celle dans laquelle tu bouges.
Et de faire avancer son personnage et pouvoir avoir un angle de vue différent. Donc il a mis les deux pads multidirectionnels sur les pouces droit et gauche, avec la possibilité d'avoir accès aux boutons A et B, pareil, des deux côtés. Donc c'est pas vraiment un problème d'être ambidextre ou pas, c'est l'étape juste avant le pad analogique avec de la PlayStation.
Ok.
Mais c'est pas le pad analogique de la PlayStation.
Non,
et le pad analogique.
C'est le double stick.
Du
double stick, quoi. Parce qu'il y a le pad analogique le avant sur la Nintendo 64.
Ouais. Voilà, la Nintendo 64, exactement. Donc c'est l'évolution juste avant la Nintendo 64.
Autant pour Wams. Alors justement, à ce moment-là, en fait, au moment du Virtual Boy, c'est une époque où Gunpei Yokoi commençait à se dire qu'il avait un peu envie de partir de Nintendo, car comme tu l'évoquais tout à l'heure, peut-être pas assez de liberté, que c'était un bricoleur du dimanche, sans le sens péjoratif du terme, et qu'en gros, il voulait finir sur le Virtual Boy. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi des valeurs, et une fierté, et que clairement, il n'avait pas envie de partir sur un échec. Il se relance chez Nintendo et veut laisser une dernière trace.
Ouais, exactement. Enfin, je pense que c'est suffisamment clairement expliqué, en plus en longueur dans le bouquin. Mais il y a beaucoup de sites internet qui pensent qu'il a été mis à la porte suite à l'échec du Virtual Boy, ce qui n'est pas du tout le cas. Gunpei Yokoi disait déjà à ses collègues qu'une fois passé la cinquantaine, après avoir passé plus de 20 ans à Nintendo, il s'est dit, bon, 20 ans c'est long. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est en étant dans la vie active. 20 ans dans la même boîte, on se pose des questions aussi.
Je voulais dire qu'on savait ce que c'est à force d'être vieux.
Mais donc voilà, aujourd'hui où on change de boulot tous les 3-4 ans, c'est même plus choquant pour personne. Passer 20 ans dans une boîte, voilà, il s'est dit, moi, passé la cinquantaine, je voudrais changer d'air un petit peu et revenir à des valeurs qui me correspondent un peu plus. Nintendo est devenu tellement tentaculaire, c'est le Nintendo of the world, hein. Il y a Nintendo America, Nintendo Europe, et c'est des jouets qui se vendent par millions, et c'est pas ce à quoi il aspire, lui.
Il parle même de nostalgie, tout ça, de l'époque.
Exactement, il parle de nostalgie de l'époque où il était libre dans son petit bureau d'inventer tous les jouets qui lui passaient par la tête, sans se poser la question, ouais, ok, c'est marrant, mais est-ce qu'on va en vendre 2 millions ? C'était ça la grosse problématique à laquelle il devait faire face. Et forcément, des idées de jouets qui se vendent par brouette comme ça, il n'en a pas tous les 15 jours. Et c'était devenu pour lui une véritable pression. Et il avait des tonnes de petites idées qu'il ne pouvait plus du tout mettre en valeur. Donc son idée, c'était après la cinquantaine de partir et de monter sa petite boîte de création de jouets, de jeux. Et le Virtual Boy, c'était pour lui le dernier cadeau. Ça devait être le cadeau qui est malheureusement devenu un cadeau empoisonné, mais qui était le dernier cadeau avant de partir de chez Nintendo. Et quand il a vu l'échec, pour éviter les amalgames et qu'on pense justement qu'il était parti suite à cet échec, il a dit bon, je vais faire un dernier succès. Enfin, il dit pas ça de façon prétentieuse, mais il dit je vais quand même essayer de partir sur un succès. Et donc il va mettre au point la Game Boy Pocket, qui sera un succès phénoménal, hein, on le sait, qui a même battu les records de vente de la première Game Boy, en dépit de son écran toujours monochrome, mais de meilleure qualité, ça c'est évident.
Et avec plus d'autonomie et avec seulement 2 piles.
Ouais, ouais, donc bon, c'est une amélioration, hein, c'est pas non plus une révolution, mais voilà, il avait 1 an pour le développer, il a fait ça rapidement. Mais ça lui a permis de partir, on va dire, l'esprit libre et la conscience tranquille. Il s'est dit, voilà, ce truc il va se vendre par brouette entière, par million. En plus, il y a les Pokémon qui arrivent, ça va cartonner. Et ça s'est montré, ça s'est réalisé. Il est parti, la conscience tranquille, mais ça n'a pas empêché évidemment les rumeurs et les premiers journalistes de faire l'amalgame. Il est parti, échec Virtual Boy. Chez nous, on a même été jusqu'à dire, il s'est fait virer, échec du Virtual Boy. Alors que non, il a tout fait pour essayer que ce soit pas pris tel quel, et il a pas réussi, quoi. Enfin, ça a été aussi un deuxième drame de sa vie, et puis ça a créé pas mal de rumeurs alors qu'il est parti en de bons termes avec Nintendo, ouais. hein. tout le monde savait qu'il allait partir quelque part et qu'il allait partir au bout d'un moment. Il est parti comme il avait annoncé.
Et ben il est parti justement pour créer sa propre société. Oui. Ça s'appelle Koto Laboratory. Et alors au début, tu l'évoquais un petit peu initialement. Ah ben alors franchement, on peut se dire, bah, il va créer des jeux vidéo, il va faire sa propre console, etc. Bah, alors pas du tout. C'est des milliards de petits gadgets. Oui. Pour certains, tu le disais, cette espèce de carte là où on peut mettre ses pièces. Ces centimes japonais, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?
C'est là toute la frustration qu'il a laissée toutes ces années-là, il a tout déversé d'un coup.
Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'il y a de marrant, c'est que l'auteur de la bio, quand il l'a rencontré, c'est une anecdote moi, que j'ai trouvée très rigolote, c'est que quand il le voit la première fois, Yokoi Gunpei, donc il ne le connaissait pas, il vient le voir, il fait « Bon, vous êtes parti de Nintendo », il le voyait comme une star, Game Boy, Game & Watch, c'était un Einstein du jeu, un monstre sacré, et il lui dit « Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Et il lui montre ce système de porte-clés cartes avec des trous pour mettre des pièces de 1 yen, 2 yens, 3 yens. Enfin, c'est pas les pièces de 3 yens ni 2 yens, mais enfin, un truc totalement débile. Et il se dit « Mais c'est le même gars qui a inventé ça, il trouve ça stupide en fait. » et il se rend compte, et Yokoi Gunpei lui tend un piège, il lui dit « Vous seriez prêt à mettre combien pour mon invention, pour ma carte ?» Et là, il est un peu préoccupé, je dis « Mais j'ai pas envie de le vexer. » Mais moi, même à 50 yens, j'en voudrais pas de son truc.
50 yens, c'est quoi
on... Ça fait 40, même pas 40 centimes. Je vais pas dire. Ouais, c'est ça. Même à 40 centimes, je l'achèterais pas. Enfin, et pour lui faire plaisir, il fait bah je sais pas, 200 yens, 250 yens, pour lui faire plaisir. Et puis là, il y a Yokoi Gunpei qui lui, enfin Gunpei Yokoi, moi je prononce à la japonaise, mais qui lui dit. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ce truc-là, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur marchande. Mais il y a un marché pour tous les supermarchés qui veulent faire des petits cadeaux, pour les banques qui veulent faire leurs petits cadeaux, pour leurs clients, c'est un petit truc. Voilà, petit cadeau d'entreprise qui ne coûte rien. Comme on reçoit des stylos tout le temps, ça n'a aucune valeur. Mais des stylos, on est content de recevoir un stylo Ubisoft, on est content de recevoir un stylo. Et voilà. Et donc là.
M&M's Gameblog.
Et il se dit tout simplement, l'auteur, il se dit, mais voilà, ce gars-là, c'est ça. C'est un inventeur du dimanche, mais qui a conscience vraiment des réalités du business. C'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré qui se dit, ah, mon invention, c'est génial, alors qu'en fait, c'est tout pourri. Il a conscience que c'est pourri, que ça n'a aucune valeur. Mais il voit.
Il fait de la merde, mais avec classe.
Mais avec classe, et il voit surtout qu'il y a un marché. Et c'est vrai que c'est un petit truc qui s'est bien vendu. Il a fait de l'argent avec sa carte. Alors qu'un inventeur, il aurait peut-être voulu le vendre dans les supermarchés, etc. Ça n'aurait pas marché du tout. Ça serait planté totalement parce que ça n'a aucune valeur.
Il avait une vision du business très
exactement.
Établie. Quoi.
Et il disait apparemment.
Et c'est en ça qu'il est génial.
Parce que j'en crois dans le livre qu'il aimait bien allier futile et utile. Pour lui, c'était deux termes qui allaient très très bien ensemble parce que pour ce genre de choses, justement, ça marchait très bien. Quoi.
Exactement. Et donc, il y en a plein des petits trucs, des petits jouets comme ça qu'il a fait à cette époque. Voilà.
Oui, pendant que le décor de Gameblog
est en train de s'écrouler
très clairement, de s'éclater sur nos gueules. Enfin bon, on ne sait pas. Alors, tous ces petits jouets, effectivement, finalement, est-ce que c'est pas un écran de fumée ? C'est dans la biographie, c'est ce qui est dit. Beaucoup de personnes se disent, mais attendez, il a réussi à débaucher d'autres personnes très clés au sein de Nintendo, qui avaient des postes importants au niveau de la conception de consoles. C'est pas possible qu'il n'ait pas en tête dans ses projets une console pour rivaliser. On sait que le temps de développement d'une machine comme ça, quand on part de zéro, il faut plusieurs années. Malheureusement, on sait que l'histoire l'a rattrapé.
Oui,
il a donné raison.
Il a effectivement débauché plusieurs personnes de Nintendo qui l'ont suivi et des personnes qui ont notamment développé la Game Boy à l'époque. Franchement, je sais pas. Il est certain qu'il n'aurait pas débauché des gens pour faire des porte-clés. On est d'accord là-dessus. D'accord. Mais ça reste quand même Koto Laboratory, un studio de research and development qui était prêt à travailler avec n'importe qui. Donc il fallait de toute façon qu'il soit prêt à développer du matériel un minimum high-tech, puisque quand il est parti, ça a fait quand même pas mal de buzz autour de lui. Et il a été tout de suite contacté par de nombreux fabricants, etc., en lui disant, écoutez, est-ce que vous pouvez mettre... est-ce qu'on peut mettre à profit votre expertise pour inventer tel ou tel truc ? Et il avait besoin de gens pour s'entourer. Est-ce qu'il avait vraiment des idées de jeux vidéo et uniquement de jeux vidéo ? Non, je pense pas. Je pense que lui, il avait surtout, c'est très bien expliqué dans le bouquin, des envies de jouer, de lier utile à futile, justement. Et il voulait développer, en fait, des choses pour la médecine. Et il avait notamment, il a eu cette idée en développant la Virtual Boy, puisqu'il s'est dit, puisque c'est bon pour les yeux, pour la rééducation des yeux notamment, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre la rééducation médicinale, puisque c'est toujours une corvée pour les handicapés de devoir se rééduquer, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'innover ? plutôt que de faire des trucs rébarbatifs qui vont saouler les... et d'innover, de faire des jeux, des jouets, des interfaces qui vont rendre la vie plus facile dans les hôpitaux, etc. Et lui, il voulait se lancer dans ça, dans ce genre de recherche. Donc lié l'utile, et qu'est-ce qu'on a? On a du Wii Fit aujourd'hui chez Nintendo. On a cet esprit qui a été conservé. Et si Miyamoto, pardon, il était disciple de Yokoi, c'était pas pour rien. Et on retrouve l'esprit Nintendo grâce à ça, quoi.
Mais justement, le 4 octobre 1996, malheureusement, dans un tragique accident qui, en plus, n'est pas très grave à la base. C'est ça, il percute une autre voiture, il sort, et là, il y a un camion qui le fauche, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Enfin, tu l'as très bien résumé. Donc voilà, il meurt 2 heures plus tard. D'un accident de voiture.
Il nous quitte donc à ce moment-là, et là, on arrive à un moment finalement charnière, paradoxalement, dans l'histoire de Nintendo. On a l'impression, en tout cas, nous, à la lecture de la biographie, on est à l'enterrement de Gunpei Yokoi, donc bien sûr, toute la, entre guillemets, tribu de Nintendo est là, Yamoshi,
il a tous ses anciens collègues, bien sûr,
Miyamoto. Et c'est très intéressant, je trouve, dans la biographie, de voir qu'à ce moment-là, Miyamoto n'était pas du tout dans la même optique que son mentor, Gunpei Yokoi, qui l'a drivé chez Nintendo pendant très longtemps, et était plus parti dans la course à la technologie, la Nintendo 64, les sticks analogiques, Mario 64, etc. Et avait quitté finalement la voie un petit peu des technologies désuètes, la pensée latérale des technologies désuètes que Gunpei Yokoi lui avait insufflé.
C'est ce qui avait permis à Nintendo de se développer, hein, tout simplement.
Mais... Exactement. Et que c'est... Alors peut-être pas ce jour-là, mais en tout cas dans cette période-là,
tu sens qu'il y a Miyamoto un shift, en fait, le moment où voilà.
Ouais, et je suis content que tu aies trouvé ce passage intéressant parce que c'est une des parties que j'ai rajoutées, donc ça fait bien plaisir.
C'est là où on va arriver à la Wii, hein, quelque part.
Ouais, et c'est un tournant décisif pour dans l'histoire de Nintendo, la mort de Gunpei Yokoi, parce que comme tu l'as résumé, au moment de la Nintendo 64, du développement, il y a une petite séparation qui se fait, et c'est là que Yokoi Gunpei se dit je suis plus à ma place chez Nintendo. D'un côté, on a le staff de développement de la N64 qui part dans une surenchère et une lutte contre Sony et Sega, et futur Microsoft aussi, mais qui n'est pas encore prêt là. Et puis d'un autre côté, il y a Yokoi qui veut continuer de faire des jouets rigolos et simples, quoi. Donc sur Game Boy notamment, des petits jeux sans prétention. Et on a un clash, en fait. Et au moment du décès de Gunpei Yokoi, il y a Miyamoto qui était maître de cérémonie au moment des funérailles et qui va prononcer un discours qui était totalement anodin, mais que moi j'ai trouvé particulièrement marquant, avec beaucoup de recul, avec 10 ans de recul, où il explique « Au sein de Nintendo, moi j'étais chargé de faire réaliser des jeux compliqués, Mario 64, La Légende de Zelda et Ocarina of Time, qui demandent beaucoup d'investissement en termes de temps pour les joueurs et aussi de manipulation. C'est quand même des jeux qui se maîtrisent pas tout de suite, pas comme les Game & Watch. Et je pensais à cette époque qu'on était très complémentaires. Dans la R&D 1, on avait M. Yokoi qui faisait des jeux simples et nous, on faisait des jeux compliqués. Et c'est ce qui faisait toute la force de Yokoi et de Nintendo. Or, quand il est parti, on s'est retrouvé effectivement, comme il l'a dit, dans l'impasse. Qu'avec des jeux compliqués, avec des jeux de niche, tout simplement. Alors que Nintendo, c'était quoi? C'était du casual à l'origine. Ça a été pendant plus de 100 ans du casual, des jeux de cartes. Et il se retrouve un petit peu dans l'impasse et il se dit, il y a une prise de conscience au sein, dans l'esprit de Miyamoto, il se dit, mais puisqu'il n'est plus là, il faut quelqu'un pour prendre la relève, refaire des jeux simples, refaire des jeux qui vont être accessibles à tous. Et c'est Miyamoto qui va se charger de ça. Ça ne va pas se faire tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va attendre, 2002, après l'échec de la GameCube, parce que la GameCube, c'est encore sous l'hégémonie de M. Yamauchi, et il va attendre le changement de présidence. M. Iwata va arriver en 2002. La GameCube est déjà lancée, on sait l'échec, un pseudo-échec que ça a été. Mais c'est là qu'il va y avoir une prise de conscience. Au moment du changement de présidence, Iwata et tout le conseil d'administration, qui sont 5 ou 6, dont Miyamoto, vont se dire on va changer de cap, on va revenir à nos bases. Et ça avait germé pendant toutes ces années, entre la mort de Yokoi et l'élaboration du projet Wii, qui démarre évidemment à la sortie de la GameCube. Ça va germer dans l'esprit de tous ces hommes, et le résultat, on l'a obtenu en 2005 avec l'arrivée de la DS, et l'année suivante avec l'arrivée de la Wii. Et tout ça, c'est l'ADN Nintendo qui a été créé par toute l'histoire de Gunpei Yokoi. C'est revenir à des choses simples, des technologies désuètes, mais repenser latéralement de façon à te faire croire à des innovations. Et ça, c'est la force, en fait, du Nintendo d'aujourd'hui, c'est d'avoir su renouer avec son ADN et donc le casual. C'est le plus gros pour moi, hein. Je combattrai toujours cette théorie, mais je suis persuadé que les 20 ans de la Super Famicom à la GameCube c'est une période où tous les joueurs ont l'impression qu'aujourd'hui Nintendo les a trahis, alors qu'en fait non, c'est Nintendo qui s'est trahi sa propre philosophie d'entreprise, et c'est le plus gros malentendu auquel Nintendo doit faire face aujourd'hui. Les occidentaux, on ne connaît que nos consoles de cette époque, mais si tu vas au Japon, quand tu vois l'histoire de Nintendo, tu te dis, mais Nintendo, attends, il y a 120 ans quand même. Avant la Famicom, la Super Famicom, il y a 100 ans de casual gaming, où il y a du jeu pour la famille. Et d'un seul coup, on se retrouve avec la Nintendo 64, où tu te retrouves qu'avec des ados mordus de jeux vidéo, et c'est un marché qui est tellement plus restreint que Nintendo a tout à y perdre. Donc, ils renouent avec leurs origines.
Et en
c'est
plus,
la magie.
Ça tombe au moment où Sony, justement, arrive à gagner des tas de nouveaux publics avec la PlayStation.
Et
ça fait qu'enfoncer le clou.
Et
ça,
contre-sens, quoi.
Ouais.
Exactement. Et pourtant, c'est là le grand antagonisme, en fait, avec l'arrivée de la PlayStation qui démocratise, mais en fait c'est qu'une illusion quelque part,
oui,
parce que c'est sûr il va démocratiser aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes, mais quelque part il complexifie de plus en plus les jeux. Et donc c'est un petit peu un trompe-l'œil. C'est vrai, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, la PlayStation a démocratisé, on est sorti de l'adolescent boutonneux aux jeunes adultes, aux jeunes adolescents, enfin aux
et
adolescents,
même aux filles,
etc., hein, et même un peu aux filles,
aussi, ouais.
Mais on est encore loin du casual gaming que va viser la Wii et la DS avec les Nintendogs, les Kawashima, et je suis persuadé que si Yokoi était là, les Kawashima, les Nintendogs, mais il aurait validé à 200%,
ah,
quoi. Et les Wii Fit, pareil, quoi, il aurait validé
la
à 200%.
Tout court,
la
Wii, voilà, toute la politique depuis Iwata, quoi.
Donc on dira, voilà, donc on dira ce qu'on voudra, nous en tant que gamers, on peut regretter cet éloignement, mais il faut se faire une raison, voilà, Nintendo est revenu à ses bases, tout simplement. Et on peut pas leur en vouloir quelque part, et puis ils ont réussi finalement, donc
En revanche, peut-être que certains d'entre vous vont nous en vouloir, car depuis le début du podcast on annonce le 4 octobre 96, c'est 97. Autant pour nous, petite erreur, hein, voilà, qui est
corrigée
d'ores et déjà. Et puis pour conclure ce podcast, n'oublions pas effectivement son œuvre posthume, la WonderSwan, auquel forcément il avait collaboré une partie, et puis le jeu de réflexion, hein, qui était très bien foutu, où on devait aligner des lignes discontinues.
Un jeu très simple mais très accrocheur.
C'est Gunpei.
Voilà, qui s'appelle Gunpei. Je crois que l'hommage, il est évident.
Il est évident, oui. Parce que c'est un petit jeu qu'il avait développé avant sur un petit jeu LCD, genre type Game & Watch.
Et mine de rien, c'est une console, un, qui a très bien marché au Japon. Hein,
oui.
Et deux, qui était vraiment dans la philosophie de Gunpei Yokoi. C'est celle où on pouvait brancher le plus d'accessoires, des petits robots à télécommander, des sonars pour les pêcheurs.
Ouais.
Elle a fait énormément de choses, on pouvait prendre l'écran verticalement ou horizontalement. Enfin, elle a inventé plein de choses, cette petite machine, en fait.
En fait, oui, c'est pas flagrant, mais je pense qu'il faut lire l'article, il est suffisamment bien, je pense, construit pour qu'on comprenne les innovations qu'elle a pu apporter. D'un premier abord, ça paraît pas une innovation, mais je suis assez d'accord là-dessus, ça a pas révolutionné le jeu vidéo non plus, mais c'est une architecture qui était extrêmement ouverte et qui a permis aussi le retour du garage gaming, quelque part, un peu avant l'iPhone, puisque c'était des technologies qui permettaient le développement amateur, notamment, et puis des expérimentations en termes de gadgets. Tu l'as dit tout à l'heure, on pouvait servir de la WonderSwan comme une interface pour utiliser des tas de périphériques totalement loufoques, et ça a été un petit peu l'innovation principale en dehors de son autonomie, une pile pour 30 heures, record battu, un écran d'assez bonne qualité, en tout cas pour la Swan Crystal, etc. Et puis son prix, quoi, c'était la console était moins chère qu'un jeu DS aujourd'hui, donc c'était une console qui était accessible pour tous et qui a apporté quand même son lot de trucs sympas, quoi.
Très clairement.
Tu parlais de la Triforce ?
Bah voilà, c'était pour clore ce podcast. On revient à ce qu'on a évoqué en tout début. Hop, on va vous montrer l'image. Donc, effectivement, sur la tombe de Gunpei Yokoi, en fait, il y a un sceau qui est apposé, clairement, celui de la Triforce. Et pourtant, c'est pas, comme on pourrait le penser, nous joueurs, un hommage de Nintendo à Gunpei Yokoi. C'est pas du tout ça, Florent.
Ouais, en fait, c'est pour ça que je suis très content de faire ce boulot, d'avoir fait ces recherches sur Nintendo, parce que je me rends compte qu'il reste tellement de choses à découvrir sur des trucs qu'on est pourtant censé connaître depuis 20 ans. Et non, vous verrez dans le bouquin, ça fait partie des rajouts qu'on a mis par rapport à la version d'origine, mais l'épisode de Popeye dont tout le monde parle quand on dit Donkey Kong a été inspiré par Popeye, mais personne ne s'est posé la question, ben, c'est quel épisode qui a inspiré Popeye ? Eh ben, nous, on l'a retrouvé, par exemple. Donc, vous lirez ça dans le bouquin, mais par exemple, pour la Triforce, pour revenir à ça, ça fait partie des choses qu'on a eu, dont on a eu l'honneur de pouvoir mettre des photos, puisque je me suis rendu sur la tombe de Gunpei Yokoi. Malheureusement, j'ai pas le droit de dire où elle est, mais là, Kyoto, vous aurez qu'à chercher dans le cimetière de Kyoto pour ceux qui y vont. Mais la famille m'a autorisé à mettre la photo, j'en suis vraiment très content, parce que quand j'y suis allé la première fois, je suis resté, moi, sur les fesses aussi. En arrivant sur la sépulture de Gunpei Yokoi, je me suis retrouvé face à face avec une Triforce. tout simplement. Et je me suis dit, mais c'est la Triforce de Zelda. Et avant de me rendre compte, en faisant ensuite, posant des questions à la famille, à la femme de Gunpei Yokoi, je fais, mais la Triforce, elle me fait, mais c'est le sceau familial de la famille Yokoi. Moi, je suis resté sur les fesses.
Énorme, là, tu t'expliques. Tu fais d'accord.
Et là, d'accord. Alors, maintenant, ça reste à prouver. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas.
Tu crois qu'elle a voulu un petit peu embellir les choses?
Non. Ça, c'est évident. C'est certain que c'est le sceau. Ça, c'est certain, parce qu'il ne se serait pas permis de le mettre sur la...
C'est comment ça s'est retrouvé dans Zelda, en fait.
Voilà, c'est un peu ça. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je demanderai, évidemment, si j'ai l'occasion de poser la question, est-ce que c'est par hommage à Yokoi, de la part de Miyamoto, d'avoir mis le sceau familial, ou est-ce que c'est un hasard? Mais de toute façon, même si c'est un hasard, même si Miyamoto dit non, on avait l'idée, on trouvait que c'était chouette, etc., c'est obligé, tout le monde savait, parce qu'ils connaissent les sceaux des uns et des autres au Japon, parce que c'est obligé qu'ils se soient rendus compte, après 20 ans de Zelda, que la Triforce, c'est obligé. De toute façon, Yokoi savait que la Triforce a été utilisée dans Zelda. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hommage flagrant? Est-ce que c'est fait exprès? Je demande à savoir, j'en sais rien. N'allez surtout pas dire dans les forums maintenant partout, en fait, Zelda, ils sont inspirés du sceau. On n'en sait rien. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que la Triforce, c'est le sceau. Voilà, et maintenant, il faut avoir une confirmation. C'est peut-être le cas, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un scoop qu'on a eu et dont on est très fiers.
Alors, il faut laisser le mystère planer. Et puis voilà.
Ouais.
En tout cas, c'est une belle manière de refermer cette saga dédiée à Gunpei Yokoi. Hein,
pour il reste beaucoup de choses à découvrir.
Ah, mais tellement. Mais justement, on va en laisser quand même, parce qu'il y a, plus de... quasiment 200 pages, hein, gorgées d'anecdotes, de photos.
Je l'ai feuilleté pendant le podcast en écoutant évidemment Florent en même temps. Et effectivement, c'est rempli de trucs et ça me donne vraiment envie de le lire.
Quoi. Et puis quand tu le lis, c'est tout simplement bluffant. Mmh. Et j'ai envie de dire, en fait, à la lumière de ce bouquin, tout s'éclaire sur l'histoire de Nintendo. Alors on a eu un aperçu, évidemment, on arrive forcément à cette conclusion dans ce podcast. Mais quand on le lit, c'est parce que c'est effectivement bourré d'anecdotes et de détails. On en arrive à cet éclairage qui fait absolument aucun doute sur ce qui est devenu Nintendo aujourd'hui et pourquoi. Tout est centré autour de ce gars-là et c'est fascinant.
Le destin de Nintendo était lié pas seulement à Gunpei Yokoi mais aussi à Yamauchi. Parce que les deux, l'un sans l'autre, j'ai l'impression que ça aurait jamais fonctionné. Quoi.
Ah oui, l'un sans l'autre, ils avaient des relations. Enfin, comme on termine, on va pas rentrer là-dedans, mais c'était des relations de père et fils, hein, carrément. Ouais. Et c'est clair que ce bouquin, moi, quand je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai adoré, que j'ai absolument voulu à l'avoir quand on a monté Pix & Love, ça porte un éclairage vraiment nouveau sur un certain nombre de décisions de Nintendo d'aujourd'hui, qui nous font comprendre un certain nombre de choses et qui remettent un petit peu, d'accord certaines personnes avec des préjugés et puis des incompréhensions qu'on pouvait avoir. Quoi. Mmh. Ça explique beaucoup de choses. Et c'est très bien qu'on ait pu le faire aujourd'hui avec beaucoup de photos, beaucoup de documents inédits prêtés par la photo,
super
la famille.
Documenté en photo également, c'est...
C'est un super bel ouvrage, Florent. Merci infiniment de ton temps sur ce podcast et du temps que tu as pu passer à reprendre cette biographie et les ajouts que tu as apportés vraiment en font un œuvre, une pierre angulaire au niveau de la culture jeu vidéo. Quand on aime le jeu vidéo, franchement, c'est un incontournable. C'est vie et philosophie du dieu des jouets Nintendo. Vous allez vraiment apprendre énormément de choses, très clairement. Alors, bien évidemment, on peut sur le site de Pix & Love.
Aux éditions, édition avec un S, pixandlove.fr. Ouais,
et puis, n'oubliez pas, si vous êtes premium, que vous avez des réductions
sur la boutique Pix & Love.
Et franchement, je crois qu'avec cet ouvrage, c'est un bon moment de l'utiliser. Voilà, nous, on se quitte pour ce podcast. N'hésitez pas dans le forum à parler des jeux de Gunpei ou des périodes de sa vie, des machines qu'il a créées qui vous ont fait rêver. Hein, nous, vraiment, unanimement. Alors, pour Trace, visiblement, c'est le Virtual Boy. Sinon, je crois que la Game Boy et les Game & Watch pour
un. On n'a pas parlé de mon ami Rob le robot.
Que j'ai encore
chez moi, enfin pas actuellement, en réalité, mais que j'ai chez moi dans ma bibliothèque, bien en évidence, j'en suis très fier. Voilà.
Ouais, Gunpei Yokoi, voilà. Un très bel héritage qu'il a laissé au monde du jeu vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, toujours aussi passionnant, vous l'avez compris cette année, beaucoup d'invités dans les podcasts de Gameblog, histoire de vivre la culture du jeu vidéo toujours aussi passionnément. Alors d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut tout le monde.